Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, nous parlons aujourd'hui des accidents domestiques chez les enfants. Vous savez, ces accidents à la maison sont très fréquents, surtout chez les enfants. Il peut arriver que l'enfant se renverse de l'eau chaude ou se brûle les doigts en passant sa main sur la plaque chauffante d'un réchaud ou sur un fer à repasser pendant que les parents étaient un peu distraits. Ou peut-être les parents sont partis au travail laissant l'enfant au bon soin de la femme de ménage qui peut être aussi distraite et voilà, vite un accident est arrivé. Et lorsque l'enfant passe la main sur une plaque chauffante, ça peut provoquer des formes de brûlures sur sa peau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les accidents domestiques, surtout chez vos enfants? Vous avez des témoignages, n'hésitez pas de les partager en nous appelant au 081 890 63 94. Nous recevons aujourd'hui Dr Gabriel Sakala, médecin pédiatre, expert en communication pour la promotion de la santé et professeur de santé publique. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, Radio Okapi. Les accidents domestiques chez les enfants, est-ce qu'on peut dire qu'il y a c'est des accidents qui arrivent souvent dans les ménages?
Oui, effectivement, je dis Daniel Kachama. D'abord, je commence par saluer tous les amis auditeurs et également vous remercier vous d'avoir sollicité notre expertise pour éclairer cette situation. Mmh. Et donc, effectivement, les accidents domestiques surviennent fréquemment. Et c'est des accidents qui peuvent concerner tous les âges, y compris les adultes. Mais quand on voit la distribution par rapport à l'âge, on se rend compte que c'est généralement les enfants avant 10 ans où on trouve effectivement beaucoup de ces accidents. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ces accidents surviennent aussi par rapport à certaines caractéristiques liées aux étapes de développement de l'enfant. Mmh. Et donc le nouveau-né déjà peut connaître certains accidents. Le nouveau-né ou elle n'est fait aucun effort peut-être pour en commettre ou en connaître, mais mm-hmm. c'est plutôt l'environnement dans lequel on les met, soit par sa mère ou soit par la personne qui le garde, qui peut faire qu'il puisse survenir un accident. On va y revenir. Mm-hmm. Et aussi,
vous dites que c'est lié au développement de l'enfant.
Aux étapes donc des acquisitions des enfants, ce que j'étais en train d'expliquer.
Pourquoi? Parce que certains enfants deviennent très turbulents.
Très turbulents, oui. Et ça, il faut le comprendre par rapport à chaque tranche d'âge. Mmh. Par exemple, à partir de 3 mois, l'enfant attrape facilement les objets et puis il peut se retourner, il n'est pas encore très bien équilibré, il peut rouler sur les côtés et facilement tomber. Et ça peut être un accident. Il peut tomber du lit, il peut tomber de canapé, on va y revenir. Et entre 4 et 6 mois, c'est cet enfant-là qui commence à avoir un peu d'équilibre, mais il n'est pas aussi capable d'être très, très, très en équilibre. Et là encore, il peut commettre quelques types d'accidents. Mmh. Et après 9 mois, et là, c'est l'enfant qui apprend à se déplacer à 4 pattes. Donc, c'est un enfant, parfois, vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas où il est. Et puis, il apparaît au moment où vous ne l'attendez pas. Et facilement, il peut commettre quelques gestes indélicat, maladroit, et qui peut commettre un accident.
Là, à 5 ans.
Là, à partir entre 6 et 9 mois. 9 mois.
9 mois,
c'est
déjà.
6 et 9 mois, oui. Mmh. Et c'est maintenant, après, vers 10 mois, 18 mois, c'est cet enfant-là qui est debout presque, qui sait marcher, mais qui apprend à prendre l'équilibre en touchant ou attirant certaines histoires. Et là encore, il peut facilement renverser, il peut facilement tomber sur le marché d'escalier. Mmh. Et c'est un enfant qui peut, à cette étape-là, aussi un peu maladroit, ne pas se rendre compte que la prise de courant, ça peut être dangereux. Mmh. Et voilà, donc tous ces genres de choses peuvent arriver. Là, c'est par rapport au stade de développement de l'enfant, les acquisitions, les gestes, les caractéristiques de leur développement peuvent arriver que ces enfants, il peut arriver que, à partir de ça, les enfants commettent des accidents. Mais d'autres sont commises par le fait d'une imprudence de la part de l'adulte.
Mais pourquoi c'est les enfants ont souvent tendance à tout ramener à la bouche? Parce que ils touchent à tout et ils veulent ramener à la bouche.
Et donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est des étapes, en fait, de développement. Donc, le pédiatre ou le pédopsychiatre qui suit l'évolution de l'enfant, et c'est d'ailleurs ce genre de choses qui permet de voir si l'enfant évolue normalement ou pas. Mmh. Parce que à chaque étape de croissance de la croissance d'un enfant, il doit avoir un certain nombre d'acquisitions. Donc commencer à toucher par le bout de doigt, par sa paume de main, et puis être attentionné, être éveillé quand quelqu'un parle, quand on chante, quand on... Donc ça, c'est des étapes qui permettent à l'enfant de croître. Malheureusement, à chaque étape, il y a un certain nombre d'accidents qu'on va essayer de voir.
Alors, quels sont les types d'accidents qui surviennent souvent, docteur?
Dans un premier temps, nous pouvons citer ce qu'on appelle l'étouffement. Et c'est ce que je disais, par exemple, pour un nouveau-né, quand il est dans son berceau, lui ne commet peut-être pas des gestes de manière tout à fait poussée, mais l'environnement dans lequel on le met, un enfant qu'on met dans un berceau et qu'on recouvre de beaucoup, par exemple, de langes ou même de couvertures ou de couettes, cet enfant-là, à un certain moment, suite à, par exemple, à un petit geste d'étirement de main qu'il peut faire, peut ramener finalement la couverture ou quelque chose au-dessus de son nez et peut arriver facilement à s'étouffer, le tout nouveau-né. Mais aussi, pour le tout nouveau-né, il y a la position dans laquelle on met l'enfant. L'enfant qu'on couche à plat ventre, il y a beaucoup plus de risques que cet enfant-là puisse s'étouffer. Et d'ailleurs, statistiquement, il a été prouvé que le cas qu'on appelle de mort subite du nourrisson vient souvent avec cette position-là. L'enfant couché à plat ventre.
Et pourtant, les mamans disent souvent que c'est la meilleure position. L'enfant a souvent mal au ventre, alors il faut le coucher dans cette position-là.
Bien, elles peuvent bien penser ça, mais nous, sur le plan purement scientifique, sur purement de santé publique, il a été observé que cette position-là, malheureusement, entraînait beaucoup de dégâts. Notamment de mort subite du nourrisson. Donc c'est une position qu'il ne faut pas vraiment bien encourager chez un nouveau-né. Alors, en dehors du nouveau-né, il y a les autres enfants, comme je dis là, quand ils commencent à croître 2 mois, 3 mois, il peut arriver que l'enfant qui a quelque chose dans son berceau, ça peut être un morceau de tissu ou une corde, tu vois, aujourd'hui avec tout ce que nous mettons autour des berceaux des enfants, quelque chose peut facilement étrangler un enfant et on peut arriver à sa les écharpes. Et à les enfants qui se mobilisent ou bien les enfants qui sont à côté ou dans un parc de jeux, hein, souvent nous mettons le parc de jeux enfants, il peut y avoir de petites histoires, des petites billes, les capuchons des stylos ou autres tout autre objet facile à attraper, l'enfant peut avaler. Avaler, ça passe encore. Mais ça peut passer dans le voie respiratoire et créer un étouffement et qui est une urgence qu'il faut savoir gérer dans les heures qui suivent. Et à part ça, aujourd'hui j'ai dit, vous voyez, dans le berceau des enfants, parfois nous mettons de peluches, donc ce que nous appelons le nounours, et beaucoup d'autres trucs avec peut-être de petites boules en perles et tout ça. Voilà. L'enfant, par un geste tout à fait maladroit, peut arracher une petite boule, une petite perle, et l'avaler ou le faire passer par les nez ou peut-être aussi par les voies aériennes. Et aussi, certaines histoires, parfois, on ne se rend pas compte. Vous voyez, une ours ou une peluche qui a la forme d'un lapin ou d'un chat ou d'un petit chien peut avoir de petits yeux sous forme de petites billes. Et certaines histoires se détachent assez facilement. Cette bille-là peut se détacher. Et l'enfant trouve que c'était un jouet et peut, par un geste comme ça, d'inattention, l'avaler ou le faire passer par la voie respiratoire. Donc voilà autant de choses qui peuvent arriver, des pièces de monnaie. Ou bien l'enfant joue à côté de la maman, on est en train de faire le cheveu de la maman, il y a une petite barrette de cheveux, la petite épingle est là, et l'enfant peut mettre dans la bouche et facilement, ça passe, ça peut créer des dégâts, même au niveau du tube digestif, tout comme aussi au niveau respiratoire. Ça c'est un, donc c'est en rapport avec l'étouffement. Mais dans les contextes de nos milieux, il y a encore quelque chose qui a déjà fait des étouffements, ce sont les sachets plastiques. Les enfants en jouant, parfois... il peut vouloir amener ses sachets en plastique, sur la tête, on peut le mettre comme un chapeau, et puis finalement, il recouvre toute la tête, et puis parfois il ne s'en sort plus,
il ne sait plus comment l'enlever.
Et oui, et facilement ça peut amener de l'étouffement. Et aussi, il peut arriver que des animaux entrent dans la chambre de l'enfant aussi, et parfois ça peut terroriser l'enfant, ça compte.
Un chat, un petit chat à la maison.
Oui. et aussi la fumée, la cigarette, le papa qui fume, et il y a des enfants qui sont parfois hypersensibles par rapport à la fumée, et cela peut aussi causer quelques encombrements chez certains enfants, surtout s'il y a un terrain de prédisposition aux crises, notamment les crises d'asthme. Donc ça, c'est l'étouffement. Mais deuxième accident qui peut arriver, ce sont les chutes. Les enfants qui sont dans le berceau, qui sont un peu à hauteur, ou parfois les parois sont légèrement un peu plus bas par rapport à leur taille, c'est des enfants qui peuvent se renverser facilement. Ça, c'est des cas connus. Ou encore, à partir d'un canapé, l'enfant tombe. C'est des enfants qui sont hyperactifs, qui jouent,
qui se retournent, même quand ils dorment, ils sont toujours en mouvement.
Et même d'autres qui, à côté de la fenêtre, quand il y a un petit meuble, l'enfant monte sur le meuble et peut facilement, il peut se retrouver de l'autre côté de l'extérieur de la maison à travers la fenêtre. Ou encore, des situations où les escaliers, les enfants, surtout ceux qui marchent à quatre pattes, un peu déséquilibrés par les escaliers, tombent. Ou des enfants qui cherchent tout bonnement à passer entre le barreau de ce qu'on appelle le garde-fou métallique. Il vient s'amuser là, et puis on est au premier étage ou au deuxième étage, en voulant s'amuser, parfois il fait
il peut passer
puis se retrouve de l'autre côté. Donc voilà, tout cela de choses qui peuvent arriver en rapport avec le chute, et donc il faut bien voir tout cela, comment bien arranger par exemple le balcon, avoir toujours une petite porte qui ferme, et surtout ne pas être distrait quand vous avez l'enfant.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir deux auditeurs. Comment prévenir les accidents domestiques chez les enfants? Docteur Gabriel Sakala et notre invité Adjim Aramout est à Kindu, et Clément Daye nous appelle des Kananga.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Adjim Aramouti, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce thème? Vous êtes à Kindu.
Oui, en tout cas, je suis très content de ce sujet d'aujourd'hui. Mais je vais présenter un cas que j'ai vécu. Mais avant que je le présente, je vais demander d'abord à l'invité. Bon, je voulais demander à l'invité, que faut-il faire pour prévenir ces accidents-là? Parce que cela se manifeste, c'est un cas purement quotidien que nous faisons. Vous allez voir, il y a un enfant, par exemple, parce que moi, je suis un parent. J'ai mon enfant, il vient de marcher, il n'y a pas trop à moi. Maintenant, je vois, avant qu'il ne marche, il était un peu tranquille. Et il ne commettait pas des accidents. Mais lorsqu'il grimpait, j'ai vu que cet enfant-là commençait à ramasser. Même s'il voit les faits, il s'approche auprès du fait. Même s'il voit quelque chose de dangereux, il s'approche là-bas. Maintenant, je voulais aussi demander une autre question. Est-ce que à quel âge que l'enfant peut commencer à poser des accidents, surtout les bébés? Je ne dis pas des enfants de 5 ans et au-delà, mais je dis des enfants de 0 ou soit à 1 année, 2 ans. Bon, je voulais que l'invité puisse me préciser, c'est à quel âge que l'enfant peut commencer à poser des dégâts matériels. C'est un peu ça, je remercie l'invité.
Bien.
Je remercie la radio Capit.
Bien. Clément Daye, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité de la radio Capit.
Quelle est votre question?
Je voudrais juste demander à l'invité, il est vrai qu'ici à Kananga, moi j'ai connu un problème grave. Il y avait deux dames. Vraiment, ce dame-là se considérait comme des amis. Mais l'autre pouvait chercher à se déplacer pour aller faire ses achats au marché. Mais il a confié son enfant de 3 ans à son ami, soi-disant, prenez garde de mon enfant, je reviendrai tout à l'heure. Quand la dame est partie du marché, au retour, il a demandé son enfant. Il a constaté que la femme à qui il avait confié l'enfant n'avait pas vraiment l'enfant. Quand on a cherché à mener des enquêtes, on est parti retrouver cet enfant de 3 ans dans une latrine. Quand je parle de la latrine, là, je vois vraiment les trous où on est vraiment décédé
dans ces trous-là.
L'enfant était déjà décédé, on a cherché à récupérer l'enfant. Alors, je voudrais aussi demander à l'invité, dans ce cadre, à qui normalement on peut confier cet accident? c'est l'ami de la maman qui a vraiment cherché ou créé l'accident, ou bien c'est l'enfant lui-même de 3 ans, tombé dans une latrine et puis décédé. Vraiment, c'est quelque chose de regrettable. Alors, la deuxième question que je voudrais juste demander, j'ai un enfant de mon grand frère, c'est notre aîné de la famille. Alors, sa fillette-là a presque quelque chose d'une année et demie. On l'avait amené dans un centre de santé, mais où on avait mis les cathéters juste pour la transfusion, où c'était la perfusion comme ça. Alors, cette plaie-là a créé l'accident chez l'enfant. L'enfant, jusqu'à maintenant, ne marche pas convenablement. Quelle méthode ou quelle technique qu'on peut normalement mettre en pratique à ce qu'on puisse récupérer la façon de marcher de l'enfant? Puisque l'enfant marche comme un boiteux, qu'est-ce qu'il fallait faire juste pour le faire revenir? Alors, la troisième des questions, ici à Kananga, normalement, on prépare au bras zéro, ce n'était pas le courant. Si normalement c'était le courant, on pouvait connaître trop d'accidents. Mais ma grande surprise, que ce soit vraiment sur mon entourage, autrement dit les voisins, j'ai constaté qu'il y a 4 enfants qui ont connu l'accident à travers les bras zéro. L'autre disait, je voudrais juste mettre les feuilles de manioc dans une assiette, mais l'enfant est venu mettre la main. L'autre dit, non, moi je préparais, l'enfant est venu s'asseoir sur le... Des histoires pareilles. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire juste pour prévenir? Puisque normalement, si on ne pouvait pas, on ne peut pas avoir les ceux qui peuvent garder les enfants, mais les mamans eux-mêmes qui protègent les enfants. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce que nous puissions prévenir à préparer les accidents? Merci, je dis bonne journée à vous et aussi à l'invité du jour.
Bien, merci, docteur Gabriel.
Oui, merci beaucoup. Merci, chers amis, pour l'intérêt apporté à l'émission et surtout pour vos questions. J'aurais bien souhaité, pour être un peu plus méthodique, que j'ai cite le 3, 4, 5 cas le plus fréquent d'accidents. Mm-hmm. Et puis, je reviens maintenant pour chaque accident, qu'est-ce qu'il faut faire.
D'accord.
Donc, comme on a parlé de l'étouffement, de chute, il y a aussi le noyade. Noyade, généralement, on pense que c'est souvent dans la piscine. Mais on peut avoir des noyades à domicile, rien que dans le baignoire. Donc, parce que là, il suffisait simplement que l'enfant soit dans une quantité d'eau qui dépasse à peu près 20 cm, il y a un risque de se noyer par inattention, surtout quand on laisse l'enfant seul. Quatrièmement, on parle des intoxications. Les intoxications sont des ingestions accidentelles, c'est-à-dire le fait de boire accidentellement un médicament qui n'était pas approprié, ou un médicament en quantité abondante, ou encore d'autres produits domestiques, par exemple le pétrole, les produits de ménagers, et ça c'est des accidents qui viennent aussi tout fait comme
les produits de nettoyage.
Et aussi il y a le brûlure. Dans votre introduction, vous avez évoqué ça. Les enfants qui se brûlent, soit on a laissé une plaque chauffante, soit c'est le fer à repasser, mais soit aussi de l'eau chaude, simplement que la maman a fait bouillir et qui s'est renversée sur l'enfant, ou de l'huile. Ça, c'est le cas qu'on connaît. Et aussi de brûlures par flamme, notamment avec la flamme de bougie qu'on a beaucoup plus ici à Kinshasa. Et puis, deux autres situations qui arrivent aussi, c'est l'écrasement de doigts à travers les portes. Donc un enfant par inattention avait encore sa main sur la porte et c'est soit de lui-même soit une autre personne claque la porte et on n'a pas fait attention, le doigt de l'enfant reste coincé au niveau de la porte. Et enfin il y a l'électrocution. Donc l'enfant s'électrocute simplement parce que en marchant en quatre pattes ou bien en jouant, la prise du courant ne se rend pas compte. Il prend une fourchette, il essaie d'introduire ou toute autre tige qui a
dans la prise,
ou encore des maisons où on a pas l'habitude de remplacer les prises défectueuses, on laisse simplement le fil nu,
oui,
et les enfants peuvent facilement jouer dessus, et surtout en plus, s'il y a de l'eau qu'on a déversée à côté, cela peut facilement causer de l'électrocution. Et enfin, on peut avoir ce qu'on peut appeler de coupures, c'est-à-dire des blessures dues aux objets tranchants. Donc, l'enfant qui joue avec une lame de rasoir, ou avec un couteau, ou avec tout autre objet, ciseau, et facilement se blesse. Donc, voilà, autant d'accidents qu'on peut avoir au niveau domestique. Maintenant, que faire pour prévenir ces accidents-là? Surtout à partir de 3 mois, où celui qui veut savoir à quel âge un enfant peut poser un accident. Je l'ai dit.
Docteur, un instant, le temps d'accueillir, on va accueillir une dame.
Okay.
Madame Pacifique, elle est à Kinshasa. Hein? Bonjour.
Bonjour,
on vous écoute.
Moi, j'ai autant de préoccupations, mais j'ai mon fils, docteur, et Il a pratiquement 3 ans ici. Et c'est depuis qu'il est tout petit qu'il est turbulent. Il touche à tout, malgré les efforts en tant que mère. Vraiment, j'ai tout fait. Finalement, j'ai trouvé que je dois l'amener chez un psychologue, franchement. Parce que, tu vois, de trouver un jour avec la prière dans la prise, un jour tu vas le trouver au réchaud, en train de brancher, alors qu'il y a du courant. Mais ce qui était fort, c'est que récemment, je l'ai trouvé au-dessus d'une étagère et en train d'échanger des phases de courant, à 3 ans. Alors franchement, moi je ne sais pas ce que je peux faire pour prévenir tout cela. Franchement, je suis au bout. Je ne sais pas ce que je peux faire avec cet enfant.
Votre enfant a plein d'énergie, il a 3 ans, il touche à tout et vous n'arrivez plus à le maîtriser.
Oui, je n'arrive plus. Il a 3 ans, vraiment je n'arrive plus.
Voilà, d'accord. Et vous comptez l'amener chez un psychologue?
Oui, je
d'accord, docteur va répondre tout à l'heure. Nous avons Anselme de Manono, bonjour.
Bonjour, journaliste.
On vous écoute, Anselme, quelle est votre préoccupation?
Bonjour, d'abord à l'invité du jour, j'ai un problème. Ce sujet est tellement intéressant et je voulais savoir aussi quelles sont les mesures préventives qu'on peut faire à ces situations. Encore un problème, c'est quoi si j'ai un enfant, il joue avec un objet tranchant, il se blesse. Quels sont les vaccins qu'on peut donner à cet enfant pour peut-être lutter contre la tétanos ou la prévention de la tétanos, si on peut dire.
D'accord, merci Anselme. Docteur Gabriel, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Donc j'étais en train de dire, quand on nous demande à quel âge on peut commencer à... l'enfant peut poser des accidents, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux choses. Il y a des accidents qui sont causés par l'enfant du fait des gestes que lui pose et qui sont liés à l'étape de croissance qu'il est en train de traverser. Mmh. C'est ce que je commençais à dire. Il y a des enfants qui mettent les histoires dans la bouche, qui font ceci. Ça, c'est lié à son étape de croissance. C'est ça, les éléments. Donc ça, il peut poser un geste maladroit. Mais il y a des accidents qui sont causés par l'imprudence de l'adulte qui a la garde de l'enfant. Donc, par exemple, quand je parle de l'étouffement, il y a des choses qui peuvent être de la responsabilité de l'enfant. Responsabilité inconsciente, bien sûr. Mmh. Un enfant qui s'est fait un étirement et qui monte facilement la couverture au-dessus de son nez et de son nez, pardon, et il reste comme ça pendant un temps et puis il s'étouffe. Mmh. Il y a de la responsabilité de l'adulte qui met de peluches, qui met beaucoup d'histoires dans le berceau de l'enfant, si bien que l'enfant s'étouffe. D'ailleurs, même l'oreiller n'est pas nécessaire dans un berceau d'enfant. Et puis, en plus, il faut mettre le barreau qui soit un peu beaucoup plus en hauteur pour que l'enfant se retrouve un peu plus en profondeur de sorte que il est un peu mis en sécurité. Donc là, c'est des responsabilités de l'adulte. Mmh. Donc maintenant, par rapport à l'étouffement, quand j'ai dit le sac en plastique peut étouffer l'enfant, ça c'est l'adulte qui doit comprendre qu'il doit pas laisser l'enfant à jouer avec le sac en plastique. La responsabilité de l'enfant, il n'est pas responsable, lui il joue et il ne sait pas en faisant ça, il peut s'étrangler, il est inconscient de ça. Oui. Et donc, à tout âge, l'enfant peut commettre un geste qui peut malheureusement l'amener dans une situation de danger. Mais c'est plutôt à l'adulte qui a la garde, qui doit veiller à ce que l'enfant, connaissant déjà qu'il est en train de passer par toutes ces étapes, de pouvoir surveiller et surveiller encore l'enfant. Et donc, pour l'étouffement, il y a ça. Il y a aussi l'aération. Il ne faut pas garder la chambre très, très fermée et à des températures très, très fortes. Ça peut arriver que l'enfant puisse s'étouffer. Donc, il faut mesure de aérer la chambre et éviter tout ce qui peut être de nature à encombrer les berceaux de l'enfant avec de nounous, avec les oreillers, avec tout ça, des habits très, très lourds. Notamment les couvertures, le couette, et puis surveiller l'espace où l'enfant est en train de jouer, qu'il n'y ait pas de petites billes, de pièces de monnaie, des épingles, de tout ça.
Les lames de rasoir,
tout cela qui peut faire que l'enfant soit avale, soit se coupe, soit utilise pour faire un geste inadéquat. Mm. Par exemple, la chute. Vous êtes en train de faire manger l'enfant sur une chaise en hauteur. Et puis après vous laissez, vous allez faire autre chose.
Vous allez à la cuisine prendre quelque chose.
Oui. Et vous laissez l'enfant seul. Il y a des enfants hyperactifs comme la maman venait de dire. Mmh. Au lieu de rester là, il veut chercher à s'élever, à montrer qu'il est plus fort. Et puis tout d'un coup, il se renverse. Et tout comme il est sur le canapé, c'est un enfant qui saute et qui ne se rend pas compte parfois de la hauteur et ou peut-être du terrain sur lequel il va sauter qui est glissant et il peut arriver.
Mais en passant, qu'est-ce que madame doit faire? Son enfant est hyperactif.
Oui,
alors,
c'est vrai, c'est là où j'allais dire à madame que les enfants hyperactifs, effectivement, ils existent. Les réflexes qu'elle a d'aller voir un psychologue est bon, mais plutôt c'est un pédopsychiatre qu'elle doit voir. C'est-à-dire le psychiatre spécialisé sur le problème des enfants. Mmh. Ils existent. Quand vous demandez au CNPP, vous allez en trouver. Mmh. Et donc, ce sont eux-là qui peuvent faire quelques examens pour voir les degrés d'acquisition, les degrés de... comment je dis, le développement de l'enfant et qui peut vous dire qu'ici, on peut faire ceci. Mais parfois, ce sont des cas difficiles à gérer. Mais en entendant, il doit multiplier la vigilance, la surveillance de l'enfant. L'enfant à 3 ans peut déjà comprendre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et donc, de temps en temps, parler à l'enfant. Même quand il est un peu plus jeune, il faut parler à l'enfant pour qu'il comprenne que ça, c'est mauvais, ça, c'est bon. Mmh. Alors, je vous lis avec les questions des amis.
Clément,
l'enfant, oui, l'enfant qui s'est retrouvé dans le trou de, dans la fosse septique
et l'enfant est mort.
Oui.
Dommage, hein.
Dommage. L'enfant vraiment, de 3 ans. Je compatis à ceux qui arrivent comme ça. Mais ce que je dis toujours, c'est la surveillance. Les enfants sont inconscients. Et ils sont dans une période de vie où, les risques n'est pas tellement évalués, n'est pas tellement mesurés. Ils peuvent aller dans tous les sens. Mmh. Et ils ne se rendent pas compte.
Et la maman est partie au marché et elle a confié l'enfant à la voisine. Qui n'a pas surveillé l'enfant.
Qui n'a pas surveillé l'enfant, c'est des cas comme ça. Aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'on a confié à la voisine. Mais ça pouvait aussi arriver pendant que la maman elle-même est là. Mmh. Nous avons connu des cas comme ça où l'enfant, la maman pense que l'enfant est dans sa chambre, alors que l'enfant a déjà ouvert la fenêtre, il est en train de pouvoir s'amuser, puis se retrouver à 2 étages et au sol. La maman ne se doutant de rien. C'est peut-être 30 minutes, 45 minutes après que le passant, on voit un enfant agonissant quelque part qui vont le attirer l'attention de la maman. Donc, ici, il n'y a pas à dire c'est de la responsabilité de tel ou de tel. Il faut simplement comprendre que l'âge de l'enfant, les besoins en matière de croissance et de développement le poussent parfois à commettre certains actes. Et là, les adultes doivent en principe surveiller. Mais surveiller aussi...
Et si les parents vont au travail, papa, maman travaillent, voilà, l'enfant reste avec la femme de ménage.
Et donc c'est tout cela et c'est vraiment conscientiser la femme de ménage et aussi les enfants pour que finalement un travail de surveillance azimut puisse se faire. Donc on ne doit pas perdre de vue un enfant. Nous-mêmes on connaît parfois, vous voyez, vous circulez, vous allez par exemple à la fikine avec les enfants, à peine vous êtes attentionné à pouvoir faire quelque chose, vous retrouvez la petite ou le petit n'est plus là. Mmh. Et vous allez les chercher partout et vous trouvez ces 3 avenues plus tard et il a été attiré par quelque chose qui l'a amené là-bas. Oui. Donc ça, ce sont des situations qui existent. Malheureusement, quand ça peut causer mort d'homme ou mort d'enfant, c'est ce qui est assez dramatique. Et donc, je renchéris avec la question de... la fillette d'une année et demie à qui on a placé un cathéter de perfusion et qui s'est qui a développé une plaie
qui marche difficilement.
Ouais. Là il faut vraiment qu'on examine l'enfant, qu'on voit à peu près qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est vrai que avec les perfusions, il peut arriver que lorsque la perfusion n'a pas été au bon endroit, ça peut créer une lésion. Et la lésion, c'est la personne qui l'a vue qui peut effectivement dire quelle est la gravité, quelle est l'orientation. Comme ça, à distance, nous ne pourrions pas donner une attitude assez juste. Il faudrait tout simplement revoir le spécialiste, un chirurgien qui est habitué à des problèmes de os et aussi à des problèmes de vaisseaux. Mmh. Ça peut aussi, il peut vous apporter beaucoup plus.
On va accueillir 2 autres auditeurs. Jiresse est académique constant à Kinshasa. Jiresse, bonjour.
Bonjour, monsieur le directeur. Jiresse, depuis la vie d'académie.
Vous êtes académique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, je voudrais poser une question à l'invité du jour. J'ai connu un cas dans mon quartier, il y a une maman qui a laissé son enfant et la maman est allée au marché. Juste à son retour, la maman a trouvé son enfant qui a l'âge de 2 ans et demi et l'enfant s'est blessé gravement avec un objet. contenant des tétanos. Maintenant, je voudrais poser la question à l'invité. Comment peut-on sauver cet enfant qui s'est blessé gravement et il a laissé couler le sang avec, il s'est blessé avec un objet contenant des tétanos et le sang a coulé gravement. Donc, maintenant, je voudrais poser la question à l'invité de me donner un remède pour sauver un tel enfant.
Merci. Constant, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je voulais tout simplement demander aux enfants comment est-ce qu'on peut aider les enfants à ne plus commettre les accidents. On peut gronder les enfants, on doit frapper les enfants ou comment faire. Parce qu'on a les enfants, un enfant de 3 ans, 2 ans, si on les frappe, on les gronde, ce n'est pas bien. Est-ce que, qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces enfants ici pour ne pas avoir des accidents? Merci beaucoup, la Radio Café.
Bien, un autre auditeur demande qu'est faire lorsque l'enfant boit du pétrole. Docteur, docteur Gabriel, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Quand l'enfant est blessé gravement, tel qu'on décrit là, et puis avec un objet contenant du tétanos. Bon, là, je dis déjà que on ne sait pas d'emblée dire que cet objet contient le tétanos. Hein? Donc là, c'est un peu exagéré. Mm-hmm. Mais on sait que c'est un objet, quand il est souillé, il a des risques d'avoir de microbes, mm-hmm. notamment le microbe de tétanos. Mais ici, tel qu'il décrit le cas, l'urgence, c'est de gérer l'hémorragie. Parce que c'est l'hémorragie qui peut tuer immédiatement l'enfant. Donc, quand c'est une blessure importante, ou surtout quand ça prend un vaisseau, la veine, donc ça va couler à flot. Et donc, il faut, dans un premier temps à la maison, faire ce qu'on appelle un garrot. C'est-à-dire, à 10 cm au-dessus de la blessure, faire un nœud avec un morceau de tissu, ou même avec une corde, pour essayer de limiter tant soit peu, mmh. et puis de mettre aussi une compresse assez propre à l'endroit où il y a la blessure, de façon à comprimer un tout petit peu, et aller directement au centre de santé. Mmh. Et quand je dis centre de santé, c'est pas les dispensaires de coin. Il faut vite aller là où on peut prendre en urgence, parce que il faut arrêter l'hémorragie. Mmh. Et s'il y a diminution importante du sang, il faut absolument qu'on puisse transfuser. Ça, c'est le premier geste d'urgence. Mmh. Maintenant, comme il y a suspicion de souillure et qui peut être éventuellement tétanos, et là, on peut donner à la fois un sérum antitétanique et un vaccin antitétanique si on a des informations sur la période d'où remonte le premier vaccin. Mmh. Le sérum, ça vous donne immédiatement les anticorps pour pouvoir agir s'il y a tétanos. Et le vaccin va assurer l'immunité contre le tétanos pour les prochaines années. Et ça, au niveau d'un hôpital bien où les gens sont bien, qui ont bien appris les choses, mmh. savent ce qu'ils doivent faire par rapport à ça. Mais ça, ce n'est pas aux parents de le faire.
Alors, un enfant qui a pris du pétrole.
Oui, un enfant qui a pris du pétrole, ça c'est vraiment le cas le plus courant qui arrive chez nous. Le pétrole, c'est un gaz, en fait, qui est volatile, qui se diffuse. Donc, quand tu déposes le pétrole là-bas et tu ne fermes pas, au bout d'un certain temps, tu verras que la quantité a diminué. Mmh. Parce que ça s'évapore. Alors, généralement, les gens ont tendance à vouloir faire vomir un enfant qui a bu du pétrole.
Pour lui donner du lait, rapidement.
Et ça, ce sont des gestes qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, avec le pétrole, la première chose qu'il faut faire, c'est évaluer d'abord quelle est la quantité éventuel que l'enfant a ingéré. Si on le sait pas, parce que parfois on a laissé le pétrole là-bas, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a laissé et quand l'enfant a bu. Mais quand vous sentez réellement l'odeur du pétrole dans la bouche de l'enfant, il faut l'amener à l'hôpital. Quels que soient les signes qu'il va présenter, parce que très souvent il ne présentera aucun signe, si ce n'est pas peut-être la toux. Mais il faut une observation d'au moins 48 heures. Mmh. Parce que les signes vont venir après. Comme j'ai expliqué que c'est un gaz qui va se diffuser dans les poumons et c'est après quelques temps que l'enfant va développer une pneumonie au niveau de poumons, donc une agression de cellules du poumon par ces gaz-là, et c'est ce qui va créer une pneumonie qui est d'origine chimique, qu'on appelle une pneumonie chimique. Mais ça, c'est 24 ou 48 heures après qu'on verra vraiment les symptômes liés à ça. Mmh. Alors, le fait de vouloir faire vomir a un effet aggravant, parce que comme c'est du gaz, ça va même quand ça voulait pas, ça n'allait pas donner des dégâts, en ce moment-là, quand vous voulez provoquer le vomissement, vous allez faire que ça puisse vraiment rentrer dans les poumons.
Donc, il faut éviter. Il faut aller rapidement au centre de santé.
Et les laits ou autre chose, huile qu'on peut donner aussi, peuvent avoir aussi ces effets-là de pouvoir potentialiser. Donc, il ne faut rien donner. Aller à l'hôpital, on va mettre l'enfant sous surveillance du cœur, et puis des autres fonctions. Et si jamais apparaît des signes, on commence l'intervention à ce moment-là. Si après 48 heures, il n'y a rien, peut-être que l'enfant voulait juste à peine prendre, il s'est rendu compte que c'est le pétrole, il a lâché. Mmh. À ce moment-là, il n'y a pas de dégâts, mais ça nécessite une surveillance. Et ça, j'insiste, même les agents de santé ne doivent pas libérer le plus tôt un enfant qui a ingéré du pétrole lorsqu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de dégâts. Ça, c'est très, très, très important.
Alors, Constant dit, faut-il gronder les enfants, les frapper pour prévenir les accidents? Quelle est la réaction?
La réaction, il ne faut pas gronder. Il faut d'abord savoir que l'enfant ne toujours pas conscient du risque. L'enfant, lui, est emporté par son élan de croissance. Il joue et il doit jouer. On ne peut pas empêcher un enfant de jouer. Mmh. Mais ce qu'on doit faire, c'est surveiller l'enfant à chaque étape où il évolue. Deuxième chose, il faut expliquer à votre enfant les dangers de façon claire avec des mots adaptés à son âge.
À la femme des ménages, parce que les parents vont travailler.
Voilà. Et à la femme de ménage, beaucoup plus de conscience, de pouvoir faire comprendre à la femme de ménage qu'elle est là pour jouer un rôle de, notamment, de sauver les enfants, d'assurer la garde à la maison, et qu'il puisse se dire que le bonheur de son travail, c'est quand il est fait bien, et puis, s'il est là, s'il est payé, c'est notamment pour faire ce genre de travail, et en plus, l'amour et l'affection que les enfants peuvent témoigner vis-à-vis d'elle dépendent aussi de la manière dont il va se comporter avec elle. Donc ça, c'est des éléments très très importants, le deux. Et le troisième, c'est apprendre à faire à exécuter des gestes qui sauvent. Et donc, vous pouvez vous arriver devant une situation, comme je l'ai dit avec le pétrole, savoir ce qu'il faut faire et surtout ne pas commettre des gestes qui aggravent. Et aussi, par exemple, les mères qui on peut brûler l'enfant de manière inconsciente avec le biberon. La mère qui chauffe le biberon à partir du micro-ondes, c'est des choses parfois qui sont très dangereuses. Il faut toujours, à partir du dos de sa main, mettre un peu de gouttes de ces laits-là pour apprécier le degré de chaleur, parce que vous risquez de brûler l'enfant au niveau de sa langue en lui donnant un biberon aussi chaud. Et aussi, ne pas porter un enfant avec quelque chose de chaud à main. Très souvent, un enfant de 3 mois, 4 mois accroché ici, et la maman avec un truc chaud
de l'autre côté.
Et parfois, l'enfant, d'un geste de main, voudrait attraper quelque chose dans un, et la maman, au moment de protéger, ou encore une situation, l'enfant qui marche à quatre pattes, qui est en train d'arriver derrière la maman qui a déposé de l'eau bouillante sur la table, et la maman, ne sachant pas que l'enfant arrive, l'enfant veut se mettre debout, l'enfant tire la nappe de la table, et se voir renverser toute l'eau sur lui.
Oui, c'est la catastrophe.
Et sachez que pour un enfant, troisième degré, vous l'avez déjà rien qu'avec 60 degrés d'eau bouillante qui tombe pendant 3 minutes sur la peau d'un enfant, vous avez une brûlure de troisième degré. Et la surface de l'enfant, une fois qu'elle est brûlée à plus de 70%, c'est un cas très, très dramatique.
Mais les médicaments, on recommande toujours de les mettre hors portée.
Les médicaments, il faut les mettre hors portée, toujours au-dessus, et surtout éviter de donner des médicaments aux enfants en faisant croire que c'est des bonbons. Parce que quand vous dites, viens prendre, c'est du bonbon, l'enfant et aussi avec un peu le goût sucré parfois qu'il y a dans le médicament, risque de croire que c'est du bonbon. À votre absence, il va aller chercher ces bonbons-là, il va les prendre facilement et c'est comme ça qu'il va s'intoxiquer. Et aussi, éviter de mettre certaines, comment on appelle ça, que ce soit le pétrole, que ce soit les détergents, les mettre sur des bouteilles qui peuvent attirer l'enfant. Par exemple, une bouteille d'eau en plastique, vous mettez du pétrole là-dedans.
Vous mettez du détergent.
C'est vous seul qui savez qu'est-ce que vous y avez mis, mais l'enfant, quand il voit, il peut penser que c'est de l'eau, et très facilement, il va boire. Et donc, ce genre de choses, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, c'est sécuriser vos escaliers. en mettant toujours de barreaux, de garde-fous. Mmh. Il faut pas être négligent. Vous avez, comment est-ce qu'on appelle ça, une tige de garde-fous qui est déjà cassée.
Surtout que vous avez un enfant hyperactif.
Hyperactif. Oui. Vous le laissez. L'enfant va venir très facilement, il va se tordre, va vouloir entrer là-dedans, mmh, et il va se retrouver à un étage plus bas.
Bien. Docteur Gabriel Nsakala, médecin pédiatre, expert en communication pour la promotion de la santé et professeur de santé publique. Merci et à la prochaine.
Merci. Et prochainement. Oh, Capi.